quand le combat a commencé entre nous et ma vie. Depuis le vent du Canarière, le sang coula comme la lumière.
Raconte-moi notre histoire. Vous écoutez le premier balado historique sur le village de Tête à la Baleine. Épisode 7. Transhumance entre terre et mer. On parle de Tête à la Baleine comme d'un village entre terre et mer. Ce qui explique cette réputation, c'est que les baleinois et baleinoises font une transhumance depuis le tournant des années 1900. La transhumance, c'est le terme utilisé pour parler du déménagement qui s'effectue saisonnièrement entre ce qui est localement appelé le village d'hiver et le large, c'est-à-dire les îles dispersées dans l'archipel face au village.
Mais au large, les gens, quand ils vont vous parler d'au large, c'est que c'est sur les îles, hein? C'est dans l'archipel de toutes îles où les gens ont leur chalet là.
Tu sais, le large, à la base, c'était parce que c'était la deuxième maison des pêcheurs.
Moi, on a grandi l'hiver, on restait au village, sur la ferme, puis l'été, tout le monde restait sur les îles pour la pêche. On ne pouvait pas pêcher du village, là. Tout le monde avait deux maisons à Tête-à-Baleine. L'été, on sortait sur les îles pour faire la pêche, puis l'automne, ben, pour l'école, je rentrais ma famille au village, là, pour l'école, puis moi, je sortais pour la pêche sur les îles.
Pour la saison froide, les familles reviennent donc sur la côte et s'installent à l'abri des intempéries, autour de la baie Plate, une anse où la marée basse y fait se retirer presque toute l'eau. Cet emplacement permet aussi de couper du bois de chauffage pour fournir les poêles, un bois qui est absent des îles. Ces habitations sont surnommées « maisons de planches » ou « maisons d'hiver » puisqu'on y déménage justement pour cette saison. Ces maisons sont construites vers 1900 parce qu'avant cela, toutes les familles demeuraient à l'année longue sur les îles. Pour construire les maisons d'hiver, il faut principalement scier le bois, ce qui se fait localement. Après quelques décennies à voir dans le paysage des maisons grises parce qu'elles n'ont aucun autre artifice que le bois naturel des planches, les gens commencent à acheter quelques matériaux à l'extérieur du village. Certaines demeures sont recouvertes par exemple de papier brique, un papier feutre goudronné avec des granules de céramique dont le relief imite la brique, qui est clouée sur les planches des maisons. Ces maisons à planches sont habitées de plus en plus autour des années 1930 et elles sont donc agrandies avec des matériaux de meilleure qualité ou plus luxueux, comme du prélard sur les planchers, mais elles conservent leur style traditionnel. Amédée Marcoux, ancienne aînée du village, en témoignait en 1970.
Les maisons, c'était faites comment dans ce temps-là? C'était-tu des maisons faites comme c'est fait à cette heure ou bien?
Non. À ce heure, ils sont faites quasiment tout comme ça. Puis dans ce temps-là, je l'ai fait avec du bois. Il faut l'acier, notre bois, l'acier blanc.
C'était pas un cadeau.
Pour l'acier, ça, l'acier blanc. Puis ensuite, si tu voulais mettre. Tu prenais des bouvards, là, à main, là. Mm-hmm. Tu en bouffais la planche, puis ça rentrait des languettes, une dans l'autre. Puis après ça, ben, on mettait une finition en dehors. Il y en avait qui étaient à la télé, puis d'autres, c'était du bois d'abord, comme aussi à faire.
Puis en dedans, c'était-tu fini ou?
En dedans, c'était épicé. Avec du papier gris, puis des gazettes. Des affaires de même.
Nous verrons que les maisons d'hiver partagent plusieurs points communs avec les maisons sur les îles, qui sont habitées lorsque la saison de pêche commence et que les familles déménagent vers leur maison d'été au large.
C'est au début, le printemps, tout le village se vidait, hein? Tout le monde s'en allait sur les îles.
Avant, concernant après l'école, là. Tout le monde s'en allait au large.
Nous, l'école terminait. Parce que la fin des classes, à l'époque de mon primaire et de mon secondaire, la fin des classes en juin, c'était toujours aux alentours du 20. Et la fin des classes terminait au montant de la marée. Parce que les gens déménageaient. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été transportées entre-temps, mais on garochait notre sac en trilogie et puis on partait pour l'île Providence.
Des fois, c'est plus de bonheur que ça. Souvent, il arrêtait l'école plus de bonheur. Moi, je me souviens des années, c'était au mois de mai. Pour, à cause des pêcheurs, parce que les pêcheurs, ben, fallait qu'ils s'en viennent sur les îles pour faire la pêche.
Ben oui,
fait qu'ils arrêtaient l'école à ce moment-là. Au lieu de finir à fin juin, ben, vers le 21 juin, on finissait à fin mai.
Mm.
Fait que là, bon, on s'en allait au large. Puis, allez, les pêcheurs commençaient la pêche.
Non,
j'ai l'école pour aller au large.
Dans les débuts, le déménagement se produit généralement dès avril et les gens reviennent en octobre. Au tournant des années 1970, cette période se resserre et le déménagement se fait davantage à la mi-mai et le retour se fait à la mi-octobre. Quant à ceux et celles ayant des enfants, le déménagement s'arrime avec la fin de l'école.
Dans ce temps-là, on était habitué à ça aussi. Mais ben, quand ça venait l'automne, on avait hâte de rentrer.
Pendant longtemps, les bateaux transportent la quasi-totalité des biens et meubles puisque les maisons du large ne sont pas meublées ou alors très peu. Cette scène du déménagement sur les îles, saisonnière pour les habitants du village mais extraordinaire pour ceux et celles qui n'en sont pas, se retrouve dans les moments forts du documentaire de Pierre Perrault et René Bonnière sur Tête à la baleine.
Il y amenait des chaises, il y amenait les chiens.
Au début, il y en a qui déménageaient jusque le poêle.
Mon Dieu, avez-vous vécu ça, vous?
Ben oui, j'ai vécu ça pas chez nous, parce que moi, mon père avait toujours son poêle à la maison du large. Hein. Il y en a beaucoup qui déménageaient le poêle. Ben, quand ils partaient des stand-ins pour aller déménager pour l'été, là, la maison se vidait. C'est certain qu'il restait plus rien. Les lits aussi, oui.
José Maillot, anthropologue de passage au village dans les années 1960, se souvient de ce déménagement particulier.
Alors moi, quand je suis arrivée dans le village, les gens n'étaient pas encore déménagés au large. Ils étaient tous dans le village de terre, qu'on appelait, c'est-à-dire le village de la terre ferme, la baie plate, comme ils disaient. J'ai vécu le déménagement sur les îles. J'ai vu la famille prendre tout ce qu'ils pouvaient, mettre ça dans le bateau, pour assurer leur quotidien une fois qu'ils seraient installés sur l'île pour faire la pêche. Alors, ils transportaient les grosses couettes de plumes, là, hein? Des énormes couettes de plumes faites avec les plumes que les chasseurs avaient enlevées aux canards qu'ils avaient tués. Et puis, ils apportaient la machine à coudre. Et puis, ils apportaient, c'était une machine à coudre à pédales, là, comme les anciennes machines Singer, là. Il y avait une espèce de pédalier en dessous là, qui faisait actionner la machine. Alors, si les femmes avaient du reprisage à faire pendant l'été, il ne fallait pas que leur machine soit dans le village de terre, parce que ça aurait été une catastrophe. Alors, ils transportaient la machine à coudre. Pas de problème, toutes sortes de choses, de la vaisselle... Ils avaient deux maisons, mais les deux n'étaient pas aussi bien équipées l'une que l'autre, comprenez-vous? Alors, ils étaient obligés de transporter beaucoup de choses pour avoir ce qu'il faut pour être assez bien équipés pour passer l'été au large.
De rares familles restent encore sur les îles toute l'année, faisant donc l'école sur la Providence.
Mais il y a eu, sur l'île de la Providence, il y a eu une couple d'années qui ont fait de l'école. Ils ont passé des hivers au large, de la Providence. Il y a eu 400 familles, là. Ça prend du bois,
ouais. Ouais, ben oui, mais c'est ça. Il n'y en a pas de bois, ces îles.
Non, mais il faut qu'ils l'en remettent. Il n'y a pas peut-être de bois en bateau, non.
Avant la construction d'un quai à tête à la baleine, les marées sont essentielles pour planifier la transhumance. La marée doit être haute pour que les gens puissent sortir du village et la marée devait redescendre sur les jetées, appelées localement des passes, pour que puissent y passer les tracteurs qui acheminent d'autres biens.
La moue de l'eau, la marée et ça, là.
C'était la marée qui décidait ça.
La marée.
Ben oui.
Parce qu'on voyait là, il n'y avait pas d'eau.
Non, fait que pour rentrer au village, ça prenait la marée haute.
Ouais. Au large, il faut imaginer de petites maisons simples. Comme les dessinerait un enfant. Cinq se retrouvent sur les îles du Rigolet en 1960.
Ah ben, nous autres, ce qu'on restait, on appelait ça, c'était l'île Anderson, mais on appelait ça le Rigolet. On disait disait pas les Anderson, on disait les Rigolette. Puis il y avait la Providence, ça c'était où l'église était, là. Ça c'était la Providence. Puis il y avait, oh mon Dieu, il y avait la Tabanane. On a peut-être, il y avait juste deux maisons, là. En premier, il y en avait juste une, en dernier, il y en avait deux. Puis il y avait un peu, Joe Marco, puis M. Thomas Manger, c'était des îles différentes, là. Puis là, au Havre, on l'appelait ça le Havre, il y avait trois maisons là aussi.
Parmi les îles que vient d'énumérer Douglas Green, l'île Providence accueille davantage de maisons, comme celle de Dan Mauger. C'est aussi là que se retrouve la chapelle, visitée les dimanches par les familles de toutes les îles.
Nous, c'était la maison d'été, elle était sur l'île Providence, dans le secteur où est la petite marina, là, l'île Providence.
Quelques habitants sont sur l'île de la Passe, quelques autres sur l'île à Pierrot.
Puis sur quelle île qu'était votre chalet?
L'île à Pierrot. On voit le. Mais non, on le voit pas,
non,
ça.
C'est
embrouillé, mais on le voit ici, l'île à Pierrot. Tu vois le spot de bois noir qui est sur l'île en face, là?
Oui.
Mais ça sort direct en ligne de ça. Sort direct, là, c'est 7 km.
OK.
Ça, en skidoo, des fois, je fais ça pour le fun.
Faut
m'insulter. Hein? Faut... Alors, en bateau, l'été, il faut à Marina, au port de Marina. On portait les sites un coup de temps, ça fait pas tellement d'années qu'on porte de Marina.
Okay.
On portait les sites, il y a un canal, un chenille, comme ça, là. C'est marqué, on s'en va au large des sites.
OK, puis étiez-vous les seuls sur les Lapierreaux?
Non, on n'a pas été les seuls. Disons que les premiers sur les Lapierreaux, je me pose la question de ce que c'est. Je sais pas si c'est pas mon père.
On
était 5, celui-là. Oh, oui, après ça, on était 4-5 familles. Ils sont venus jusqu'à 5 familles.
D'autres encore sont sur l'île du Petit Mécatina.
Oui, on a eu. Mais moi, quand j'ai eu. Au début, c'était sur le Mécatina. J'étais jeune, là, oui. J'ai une dizaine d'années, là. On était sur le Mécatina.
Puis ça, c'est votre chalet d'été. C'était là que vous alliez l'été.
Oui, l'été.
Puis voilà. Pourquoi se mettre sur le Petit Mécatina? C'est meilleur pour le poisson?
Ou... Ben c'est ça, il fallait que tu étais proche pour le poisson, là. Pas avoir moins à aller, là, pour le poisson.
Ces maisons dispersées sur les îles du large sont de petites dimensions et elles sont dites à pièces, puisque leur charpente est constituée d'épinettes pièces taillées à la hache ou à la scie du long, c'est-à-dire à bras. Traditionnellement, les bardeaux sont de même composition. Il s'agit de plaques taillées dans l'épinette. Le témoignage écrit d'une femme née en 1917 nous permet de concevoir en détail ce à quoi pouvait ressembler une maison d'été. Elle possédait deux étages. Trois chambres à coucher sont en haut, avec des lits de plumes de gibier. Sous l'escalier qui mène à l'étage, on retrouve le caveau, qui sert à entreposer farine, sucre et autres provisions. Les murs sont tapissés d'abord de papier brun, de catalogues ou de gazettes. Ensuite, les catalogues sur les murs seront remplacés par la tapisserie. Les planchers étaient peints de couleurs principalement blanches, oranges ou grises, et des boîtes de beurre ou d'orange vide étaient clouées au mur des chambres pour y déposer le linge qu'on appelait le butin. Les maisons reposent encore en 1970 sur des troncs d'arbres permettant une circulation d'air entre le sol et le plancher. Les denrées périssables et autres réserves alimentaires sont placées dans une cabanette près de la maison. Il y avait aussi des stores, des hangars sur pilotis, construits au-dessus de l'eau du golfe pour tenir au frais certains aliments, comme le lard salé et les œufs cueillis sur les îles. Si les familles déménagent pour tout l'été, c'est aussi toute l'organisation du village qui part au large.
Ben oui, on déménageait le bureau de poste l'été pour l'été au large. On disait au large, c'est sûr. Puis, à ce moment-là, là, il restait pas beaucoup de familles. Même les magasins déménageaient sur les îles. Là. Il y avait deux magasins à l'île Providence, moi, là, quand j'étais jeune.
Okay.
L'épicerie Pierre-Monger, là, il déménageait... Non, l'épicerie Pierre-Monger, non. Eux autres, ils déménageaient pas, ils restaient ici. C'était le magasin chez Madame Anora, Marcourt. Elle avait un magasin, elle déménageait sur les îles l'été. Puis, il y avait chez ce qui est rendu maintenant le magasin du portage, c'était les propriétaires, c'était M. Walter Nadeau, Mme Ovida, Monger. Il y avait un magasin, eux autres aussi, puis le magasin, il déménageait sur les îles. Il y avait des magasins sur les îles.
Non, les gens, il y avait un magasin sur l'île Providence, oh, puis il y avait ça avant les années 60. Okay, moi, j'étais à Flo, un peu sur Flo, là. On partait de l'île du Havre, puis on rentrait à l'île de Providence pour aller au magasin, en bateau, l'été. Hein, c'est le strict nécessaire qu'il y avait là. La nourriture, c'est ça. Les grosses nourritures.
La tête à la baleine, tous et toutes se déplacent sur les îles de l'archipel à l'été. Tous et toutes, sauf le garde-feu.
L'été, il restait plus grand monde au village, là. Il restait les garde-feu. Dans ce temps-là, il y avait les garde-feu.
Ouais, ceux, les garde-feu
ceux qui s'occupaient de surveiller ouais. pour les feux, puis après ça, ouais. les garde-feu.
Mm-hmm.
Pour ça, il n'y a pas ben belle famille qui restait au village. Tout le monde faisait la pêche.
Ben oui, c'est ça.
Gagnait à la pêche.
Pendant longtemps, ce poste fut occupé par Adolphe MacKinnon, surnommé Menon, mais aussi par un certain Philippe, qui devait sillonner le territoire tous les jours pour le sécuriser du feu, comme Gilles et Micheline Mongé nous le racontent.
Philippe, le garde-feu, qui se promenait avec sa pipe, avec sa couvert de fourrière par-dessus.
C'est quoi ça, un garde-feu?
Ben, surveiller les incendies de forêt. Dans ce temps-là, il y en avait dans tous les villages,
ouais.
puis même à certains endroits, comme au nord de Romaine, il y avait des tours, où il y avait des gens d'installer dans les tours là, pour surveiller pour les feux de forêt.
Le capuchon de la salière empêchait les braises de sortir de sa pipe pour mettre le feu quand il faisait ses tournées.
Ben, ça aurait été le comble que le garde-feu mette le feu au...
Lui, en principe, ben, le garde-feu allait
dans un... Il a mis un autre garde-feu pour l'éteindre.
Le garde-feu allait dans un point surélevé, puis il faisait le tour avec ses jumelles, avec ses longues vues pour vérifier... La fumée, les feux, puis ils rapportaient les feux.
En plus du garde-feu, depuis les années 1960, on voit de plus en plus de familles rester pour l'été au village d'hiver, puisque des membres de ces familles travaillent comme marchands ou encore sur les travaux de voirie, par exemple sur le chemin qui mène au quai.
Puis, il y était quoi, deux, trois familles à cette époque-là qui restaient ici au village?
Non, pas beaucoup.
Puis, quand une perdienne a démarré ses affaires de moulin, là, ils sont plusieurs, sa mère, puis ils sont plusieurs qui sont venus rester.
Pour la majorité qui déménage, l'arrivée sur les îles représente une délivrance et une période de joie intense pour les plus jeunes et les moins jeunes, comme nous le partage Jeanne d'Arc Mongé.
Quand j'étais jeune, c'est à chaque fois qu'on y va, là, c'est là je me sens retombée comme en enfance. Tu sais, je me sens toujours comme un enfant. C'est l'été, puis ouais, c'est moi je vais me promener tout le long de l'île, là, puis je peux être assis des heures là, si je vois des baleines, des loups marins, tu sais, dans le temps de, si on voit pas ça, le caplan roulé, parce qu'il y a pas de plage, mais il y a une période généralement c'est entre mai et juin, ça dépend des dates d'où ce que tu es, puis fait que dans le fond c'est ça le caplan. Il y en a plein aussi ici, c'est juste qu'on le voit pas rouler, puis on en a conscience quand les baleines, ben c'est toutes différentes sortes de baleines, là. Mais c'est là où est-ce que c'est le bon temps de les voir parce qu'ils plongent dans les bancs de caplan pour se nourrir. Fait que c'est, écoute, ça peut être des heures durant, là. T'sais, fait que c'est comme, puis moi je m'assis là, puis c'est comme si j'avais 5 ans, puis je sortais chez le dentiste, puis qu'il m'avait donné un méga gros bonbon, là. Je ne me tanne pas. Si les baleines plongent pendant 5 heures, je vais être là pendant 5 heures. C'est... Puis même des fois, juste regarder l'eau. Ça peut durer des heures. C'est comme un... Tu sais, quand on dit décrocher, là, je pense qu'il faut vivre ça pour savoir c'est quoi vraiment décrocher. Ça se compare pas. De l'infini, tu cherches l'horizon, tu la vois pas. Tu sais, t'as rien, t'as pas de radio, t'as pas. Bon, OK. Maintenant, on a le cellulaire, mais je veux dire, t'es pas obligé de le traîner sur toi.
Non, c'est ça.
Puis, mais c'est ça, tu sais, c'est la nature, le silence, juste les bruits de la nature. Ça, c'est le jour. Mais le soir, c'est une autre affaire aussi, là. Parce que. Tu sais, le jour, ici, à Tête-à-Baleine, c'est quelque chose des étoiles versus ce que tu vois en ville, tu sais, que tu vois presque pas en ville.
Non.
Mais au large, c'est encore plus impressionnant. Parce qu'il y a aucun lampadaire, il y a pas de lumière de camion, il y a pas de lumière de skidoo. C'est le ciel. Tu sais, c'est... Ouais.
Oh, wow.
Puis il y a pas de mouches.
Ouais. Ici, les gens s'échappent hein, l'été sur les îles.
Oui, vraiment.
Ouais. Au large, les jeunes enfants font l'objet d'une grande surveillance. Il était commun d'attacher une corde à leurs pieds jusqu'à l'âge de 8 ou 10 ans pour qu'ils ne s'approchent pas trop de l'eau.
Moi, dans mon cas, ben sur l'île, on est tout seul. Fait que, tu sais, complètement tout seul. À un enfer s'inquiéter mes parents, tu sais, parce que quand t'es parti 3 heures à te promener sur l'île, ben, ils ont toujours peur que je tombe à l'eau ou quelque chose, tu sais. Disons que des fois, fallait que je me ramène à l'autre, dire, OK, je vais retourner au chalet, tu sais, dire que tout va bien, mm-hmm. je suis là, et puis après ça, je repartais, puis j'allais m'asseoir.
Vous êtes criant de mère. Ma maman était bien inquiéteuse. Puis moi, je vois, t'es un maniaque de l'eau.
Ah ouais, vous étiez un maniaque de l'eau?
Ah ouais. Je comprends. Ils ont toujours au bord de mer, puis elle criait après nous autres.
Elle avait peur que vous tombiez à l'eau?
Ben ouais, elle a peur. Ça s'est jamais réalisé, ça a eu peur pour moi.
À part de s'amuser à faire des frousses à leur mère, les enfants miment aussi les activités de leurs parents. Ils reproduisent des scènes de pêche avec des planchettes dans les mares des îles ou encore la chasse aux petits gibiers de mer en lançant une pierre ou un bout de bois sur un couvercle métallique. D'autres encore font des gâteaux avec de la terre.
Oui, pour nous autres, c'est du plaisir. Hein?
Ah, ben nous autres, sur les îles, tu sais, c'était notre territoire. Là, on arrivait là, puis on parcourait l'île là, d'un bout à l'autre. Ben souvent, on s'amusait avec des canons à rames. Là. On se promenait dans le Rigolette. Mais il y avait un canon qu'on aimait bien avoir parce qu'il avait les deux bouts pointus. Il était plus petit puis il allait plus vite. Mais sauf que lui, on n'était pas autorisé souvent à l'avoir.
Comment ça?
Parce que c'était plus dangereux de les verser. Fait que quand les hommes étaient partis à la pêche, celui-là, on n'avait pas le droit d'y toucher.
Quand mes amis m'invitaient à aller à Providence, je capotais ma vie, tu sais, parce que là, c'était comme un deuxième petit village. Tu sais, moi, c'est une chose, c'est le fun d'aller sur notre île, parce qu'on est tout seul. Mais en même temps, la Providence, c'est un autre monde aussi, tu sais. C'est comme un deuxième village dans le village, puis, tu sais, il y a une dynamique. Quand il y a plein de gens là l'été, tu peux te visiter ces îles au large, fait que c'est... Ouais, ça fait vraiment partie des plus beaux souvenirs, là, tu sais, c'est quelque chose de spécial. Puis même pour celles, tu sais, moi, mes amis, qui, c'est sûr, tu sais, qui avaient un chalet à Providence puis qui y allaient presque à toutes les fêtes de semaine, ça reste spécial en soi, même si c'était quelque chose de régulier.
Le déménagement au large rime aussi avec la saison des pique-niques en famille ou entre amis sur les îles. Le menu est composé de trésors de pêche. Susie Green, sœur Hélène Côté, puis Douglas Green nous partagent leurs souvenirs de ces moments joyeux.
Oui, oui. Il y a des gens qui, des groupes qui faisaient des pique-niques. Là.
D'ailleurs, on faisait ça, les enseignants. Il faut que ce soit quasiment la tête à baleine. Je vais résumer ça ailleurs. Et on appelait ça un party de fin d'année, mais ça, c'était plus les enseignants où on avait du crabe et on allait manger ça. On appelait ça au large, là, c'est plaqué. Fait que, oui, c'était spécial. On dirait que c'était généreux. Là. Il n'y avait pas de limite. Puis on était reçus des fois chez Pierre Monger et Bernadette. Là. Puis c'était ça, des homards, puis tous les enseignants, puis là, on était plusieurs. Là.
Ah oui, 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 Seigneur. Quand on allait pour ça, des fois l'été, on allait pour commencer des grenages, là. Et là, on faisait des lunchs dehors, on allumait des feux, là. Puis faire un bon lunch dehors, c'était le fun. Une fois, quand on arrive ici à l'île, j'ai dit là, on va dîner tout de suite, là, avant d'aller monter sur l'île, tu sais. OK. Quand on a eu fini de manger, là, moi, je fumais dans le temps. J'ai dit aux enfants, là, si vous voulez fumer une cigarette, là, vous voulez vous en faire chuter. J'ai ri comme un fou. Ça toussait, ça pleurait. J'ai dit, Pierrette, ma femme, elle dit, t'es fou, en plein, quand même. Les pareilles affaires, ben, j'ai dit, t'as comique, t'es voir. Mais ça, ça y est, hein, ça toussait, ça pleurait. Ouais, alors, c'est...
Alors qu'elle était autrefois la norme, la transhumance traditionnelle, à savoir le déménagement pour un été complet sur les îles, se fait extrêmement rare de nos jours. À la fin des années 1990, seulement 2 familles déménageaient encore sur l'île Providence pour tout l'été. L'attraction des îles demeure toutefois très profondément ancrée chez les gens qui habitent tête à la baleine.
Même encore, je veux dire, tu y vas, puis c'est sûr que c'est peut-être pas aussi vivant, sauf que, tu sais, quand il y a... minimum 4-5 personnes qui sont à leur chalet, ben, tu sais, tu te recrées une vie de tous les jours, mais en mode chalet, tu sais. Fait que, ouais, c'est comme plein de différents mondes dans un même monde, dans le fond, là, ici, là, tu sais.
Aujourd'hui, certains rares couples gardent de leur mieux le phare de ce mode de vie typique du village sur des îles qui renvoient encore parfois l'écho de cris enfantins lorsque les petits-enfants viennent visiter leurs grands-parents. Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Camille Nadeau, Douglas Green, Jeanne d'Arc-Manger, Dan Manger, Susie Green, José Maillot, Micheline Lapointe-Manger, Gilles Manger, Sœur Hélène Côté et d'autres personnes qui désirent demeurer anonymes. Sans leur participation, ce projet aurait été impossible. C'est pourquoi, en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe de la radio CJTB, je les remercie chaleureusement. Je tiens à souligner la participation à cet épisode de José Maillot, anthropologue de grande importance, décédé alors que j'étais en train de réaliser ce balado. Vous avez aussi entendu un extrait de cassette enregistré sous l'initiative d'Yves Gravel dans les années 1970 et dont certains audios ont été optimisés par les productions du garde-robe. Un merci spécial à Lisette Manger de nous avoir partagé ses trésors et à Alain Vallière de nous avoir aidés à les valoriser. Pour découvrir des informations complémentaires sur cet épisode ainsi que des photos d'archives, rendez-vous sur le site web de la radio CJTB, sur la page du balado « Raconte-moi notre histoire ».